Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans les Alpes, cette montagne qu'on aime tant, mais qui a quand même quelques inconvénients, et notamment en termes de transport. Depuis toujours, on a cherché à franchir cette barrière naturelle le plus facilement et le plus rapidement possible, que ce soit pour les voyageurs ou les marchandises. Alors, c'est l'objectif du fameux projet du Lyon-Turin qui connaît actuellement quelques soubresauts au point que des doutes subsistent ou même se renforcent sur sa réalisation. C'est pourquoi nous avons voulu faire le point avec nos invités, Myriam Laïdouni-Denis, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, et Patrick Mignola, député MoDem de Savoie, également conseiller régional, ancien vice-président des Transports. Alors d'abord, un petit rappel du projet. Le Lyon-Turin, c'est le chaînon manquant qui permettra de relier l'Est et l'Ouest de l'Europe. Tous les autres axes sont nord-sud. Il est donc largement subventionné par l'Union européenne. Le Lyon-Turin, on peut le diviser en trois secteurs. D'abord, il y a un tunnel de base de 57 km qui part de Saint-Jean-de-Maurienne et arrive à Suse, dans le Piémont italien. Il passe sous le Mont-Cenis et le tunnel actuel, donc beaucoup plus haut et beaucoup plus pentu. Ce tunnel, il est actuellement en cours de réalisation. Il est l'objet d'un traité international. Ensuite, il y a les accès. Alors, côté italien, le tunnel sera Suse et rejoint Turin. On verra en fin d'émission où nos amis italiens en sont. Et côté français, eh bien, l'itinéraire part de l'agglomération lyonnaise pour arriver à Saint-Jean-de-Maurienne. J'aurais dû dire les itinéraires, car à partir d'Avressieux, il y a deux tracés. Le premier passe par Chambéry avec un tunnel sous les massifs de Dulin et l'Épine. Et le second passe sous le massif de Chartreuse, en tunnel là aussi, avant de rejoindre la ligne qui vient de Chambéry au sud de Montmélian. Alors sur le papier, tout cela est très joli, mais là où les choses se gâtent, eh bien, c'est que cela coûte beaucoup d'argent, on compte en milliards d'euros, et l'État français n'en a pas ou n'en a plus. Et en février dernier, un rapport qu'on appelle du nom de son auteur, le rapport Duron, préconise qu'on arrête tout. On verra tout cela en 2038 et en attendant, on modernise les lignes existantes pour 700 millions d'euros. Patrick Mignola, ce rapport Duron, il sert à l'élaboration du projet de loi d'orientation sur les mobilités qui doit être présenté en avril au Conseil des ministres. Alors, est-ce qu'il enterre le Lyon-Turin ou pour vous, tout n'est pas perdu?
Moi, je crois que Philippe Duron est un homme honnête qui dit la vérité. Depuis 25 ans, on nous explique qu'on va faire le Lyon-Turin sans difficulté, parce qu'on en connaît les enjeux économiques, écologiques en particulier, mais on ne s'est jamais intéressé au financement du Lyon-Turin. Et donc oui, bien sûr, comme vous l'avez rappelé, Christian Deville, il y a une forte participation de l'Europe, mais pour autant, pour les accès français, depuis Lyon jusqu'en Savoie, il y a beaucoup d'argent à mettre sur la table. Et de ce point de vue-là, le dédoublement que vous avez décrit entre une ligne voyageur d'un côté et une ligne marchandise de l'autre est infinançable. Et là, ça y est, on vient de nous présenter la facture, l'addition et probablement la bonne décision pour relancer ce projet. Parce qu'il n'est quand même pas question de renoncer.
Non, mais le rapport Duron, on lui dit, on fait rien.
Bien sûr.
On améliore les lignes existantes.
C'est-à-dire que si vous avez une vision maximaliste, où vous voulez tout, vous n'aurez rien. Et donc, si on veut relancer ce projet, parce qu'on ne va quand même pas accepter de continuer à avoir autant de pollution dans les Alpes, autant de camions qui passent dans nos vallées, la vallée, bien sûr, de la Maurienne, mais toute l'agglomération de Chambéry, Annecy, la vallée de l'Arve, la vallée de Chamonix, il faut qu'on choisisse et qu'on réouvre le jeu. C'est toute la discussion sur la loi mobilité qui va venir, en disant, nous, on préfère les marchandises, donc, parce que les marchandises, c'est une priorité pour l'emploi, pour l'écologie.
Jusqu'à présent, les Savoyards disaient, nous, on veut tout, le rapport Duron, vous n'aurez rien. Ouais. Et donc, vous pensez évoquer qu'il y aura une solution intermédiaire de négociation pour avoir au moins un itinéraire.
J'essaye d'avoir une forme de, en même temps, entre le tout et le rien, de trouver un savant équilibre en tant qu'élu centriste. Et puis surtout, je crois que c'est très important pour le territoire d'avoir une priorité à l'environnement et puis à l'emploi.
Donc, parce qu'on parle de trafic de marchandises. Il laisse une marge de manœuvre.
Bien sûr. Et puis la décision reste politique. C'est-à-dire que ce sera à nous de faire des arbitrages. Et en l'occurrence, on aura l'occasion d'en parler, de trouver une bonne complémentarité entre des grands projets d'un côté et les transports du quotidien de l'autre. Parce que là, le Lyon-Turin peut-être nous permettre d'être complémentaires.
Myriam Laïdouni-Denis, vous, comment vous avez reçu ce rapport? Il va plutôt dans le sens des écologistes qui ne voulaient pas du Lyon-Turin.
Alors, il n'y a pas que les écologistes qui ne veulent pas du Lyon-Turin. Il y a les opposants. Et parmi les opposants, on va remonter un petit peu en arrière, il y a le Conseil général des Ponts et Chaussées qui, en 1998, pour les mêmes raisons, disait que ça n'était pas viable, d'ailleurs d'un point de vue économique aussi, hein, mais surtout qu'il fallait préconiser, privilégier les voies déjà existantes. Ce qui est dit également dans le rapport Duron, les voies existantes, on pourra peut-être y revenir ensuite, parce que c'est la position de ceux qui sont alors opposés au fait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on continue à laisser mourir les gens de la pollution. Il y a 85 personnes par an qui meurent de la pollution de l'air dans la vallée de l'Arve, et comme la pollution n'a pas de frontières, levons un peu le nez du guidon, 48 000 en France, 3 millions dans le monde par an. Alors, si on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas 85 personnes à nouveau qui meurent l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des choses tout de suite. Or, le Lyon-Turin, justement, c'est trop tardif. Ça sera, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 2038. Donc, ça n'est pas envisageable. Il y a d'ailleurs des recours qui ont été déposés pour mise en danger d'autrui sur le fait qu'il faut faire des choses tout de suite. Alors, le rapport Duron, il dit aussi une chose très intéressante, page 83, je lis, hein, la démonstration n'a pas été faite de l'urgence d'engager ces aménagements dont les caractéristiques socio-économiques apparaissent à ce stade clairement défavorables. Donc en plus, économiquement, ça n'est pas du tout démontré qu'aujourd'hui, à nouveau, ce soit possible. Il y a également la Cour des comptes en 2009 qui a dit la même chose. Mais c'est important parce que ça fait 20 ans que ça dure et il y a plein de rapports qui ont été mis au jour.
Pour une application stricte du rapport Duron et justement en opposition avec la négociation que veut entamer Patrick Mignola avec les services du gouvernement.
Ouais, moi, si vous voulez, juste une chose, le choix entre deux itinéraires, pour donner une petite métaphore, je suis contre le fait qu'on scie la branche sur laquelle on est assis. Or, vous en êtes à décider de la couleur de la tronçonneuse. Moi, je veux juste qu'on scie pas la branche.
Non, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est important. Vous avez cité la question économique. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision comptable de la vie politique. Et en l'occurrence, on nous dit il n'est pas prouvé qu'aujourd'hui, ça amènerait des flux économiques supplémentaires. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les seuls flux en Europe, c'est Nord-Sud. Les marchandises arrivent à Hambourg. Et elles vont jusqu'à Gênes, parce que les Suisses se sont beaucoup mieux débrouillés que nous. Ils ont fait le Gotthard et le Deutschberg. Et donc, aujourd'hui, c'est du Nord-Sud. Et la France serait une sorte de Finistère européen. Et on serait incapable de relier, par exemple, l'Espagne à l'Italie en ne faisant pas le trafic de marchandises. Donc, évidemment, si on fait une photographie aujourd'hui des échanges Est-Ouest en Europe, on considère qu'il n'y a pas de priorité socio-économique, comme le dit le rapport Duron. Mais demain, c'est une création d'emplois extraordinaire qu'on est capable de recréer si on crée une grande transalpine qui permet de relier l'Est et l'Ouest de l'Europe. Et ça permet au moins d'avoir là un projet politique qui réunit des peuples. Enfin, c'est un élément extrêmement important.
Je parlais des doutes qui pèsent sur la réalisation du Lyon-Turin. Le contexte n'est pas favorable, Patrick Mignola. On est après Notre-Dame-des-Landes où le projet a été abandonné avec une forte pression écologique, avec un Nicolas Hulot qui lui aussi doute beaucoup du Lyon-Turin. Est-ce que vous craignez pas qu'on fasse un trait sur ce projet?
Mais moi, je crois que Nicolas Hulot a raison quand il dit qu'il faut privilégier les transports du quotidien aux grands projets d'infrastructure. Il se trouve, en l'occurrence, j'ai été vice-président en charge des transports dans cette région, que les lignes les plus malades dans la région, c'est Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry. C'est-à-dire, si vous considérez que c'est en utilisant les voies existantes qu'on va relancer le fret et qu'on reliera la France à l'Italie, vous faites que rajouter des trains sur des lignes qui sont déjà malades. Donc si on veut améliorer les transports du quotidien sur ces itinéraires, il faut précisément créer un tracé nouveau. Mais ce tracé nouveau, prioritairement, il faut l'orienter sur les marchandises plutôt que sur les voyageurs.
Alors, vous parlez de comptabilité. Les 85 personnes par an qui meurent dans la vallée de l'Arve sont aussi... On est comptable aussi des vies qu'on doit sauver.
Enfin, m'attaquez pas là-dessus, c'est la première chose que j'ai dite.
Mais justement, la question, elle est, pourquoi on ne fait pas les choses tout de suite? On part des lignes existantes. Les lignes existantes, c'est la ligne Ambérieu-Modane. Elle est capable... On est capable d'avoir 120 passages par jour, donc aller et retour.
Ça serait suffisant pour alimenter le futur tunnel du Lyon-Turin.
Je termine juste. Mm-hmm. Actuellement, il n'y a que 20 allers-retours par jour. Cette ligne, il y a déjà eu, je crois, 1,5 milliard dessus pour la restaurer. Vous parliez d'emploi tout à l'heure. Si on se met tout de suite à travailler sur cette liaison-là et sur le fret, c'est 400 emplois en tout qui seront mis là-dessus. Question comptable financière. Il y a quand même une petite chose, et ça, je pense qu'on va l'évoquer. Ça coûte un peu d'argent pour équiper notamment les camions, pour qu'on puisse les mettre sur le fret. Il y a un fonds quand même qui a été dévolu à...
Excusez-moi, madame. Ce qu'il y a, c'est que ça devient très technique. Et je voudrais qu'on reste sur le truc. Est-ce que le Lyon-Turin va se faire ou pas? Pour vous, avec ce rapport du rond, il ne se fera pas. Et les lignes existantes sont suffisantes pour alimenter le tunnel. Oui. En termes de gabarit, il n'y a pas de souci.
Complètement. Et en plus, il y a des moyens de le faire.
Cette ligne existante, si elles sont réhabilitées, ça sera fait beaucoup plus rapidement que le Patrick Mulhouse.
Ça peut se faire très rapidement.
C'est très simple. Si vous passez de 20 à 120 passages par jour sur Ambérieu-Modane, vous montez de 12 millions de tonnes. Est-ce que vous savez combien de tonnes passent à travers les Alpes? 100, pas 12. Et donc, si vous voulez régler le problème des camions et des 85 personnes qui meurent à cause de la pollution, ce n'est pas en réduisant de 10% le passage des camions que vous réussirez. Donc naturellement, se posera la question d'un trafic de marchandises, de fret ferroviaire, à moyen et à long terme. Donc je suis parfaitement d'accord pour qu'on relance le fret à court terme. Bien sûr qu'il faut réactiver la plateforme d'Ambérieu. J'ai toujours été favorable, je continue de l'être. Mais vous réglez 10% du problème, moi je souhaiterais régler beaucoup plus que ça.
Alors avec le rapport du Rouen, un autre élément nouveau donc intervenu récemment, c'est la prise de position en novembre dernier de 17 élus de Savoie et de Haute-Savoie qui réclament une inversion des priorités. Alors, dans la déclaration d'utilité publique de 2013, on voit bien, on va voir le phasage. Donc, la phase 1, elle part de Lyon et qui va à Chambéry. Alors, principal avantage, cela fait sauter ce véritable verrou actuel. La ligne à voie unique est limitée à 90 km/h depuis Saint-André-le-Gaz. Vous confirmerez, Patrick Mignola, c'est un peu le cauchemar des voyageurs savoyards et aux Savoyards. Et ensuite, dans une deuxième phase, on réaliserait la voie là aussi mixte, frais et voyageurs, qui traversent la Chartreuse. Patrick Mignola, vous faites partie des signataires de cette pétition qui réclame l'inversion des priorités. Pourquoi ce revirement? Et il y avait jusque-là un consensus qui a amené à cette DUP.
C'est parce que, d'abord, on avait toujours dit qu'il y avait une priorité au fret. Ça a été écrit dans tous les documents, même les documents qui soutenaient de façon assez large, tout parti politique confondu d'ailleurs, la ligne voyageurs et la ligne de fret. Aujourd'hui, on nous dit que ce n'est pas finançable, c'est-à-dire qu'on ne fait que nous dire la vérité qui avait probablement été cachée pendant de longues années. Donc on dit, si on tient quand même à mettre moins de pollution dans les Alpes et à créer de l'emploi et à créer des liens Est-Ouest en Europe, il faut choisir entre les deux. Et nous, le choix, il est clair. C'est celui de l'emploi et de la lutte contre la pollution. Et c'est la raison pour laquelle on a été très nombreux à signer ce choix-là.
Mais pourquoi éviter? Alors, on va d'abord écouter les réactions, parce qu'il y en a eu beaucoup suite à cette pétition signée donc par les élus. La première, donc, c'est celle de Louis Besson, le grand spécialiste du dossier, et puis président de la commission intergouvernementale qui s'occupe du tunnel de base. Je vous propose de l'écouter. Il n'est pas tendre.
Que des parlementaires de Savoie et Haute-Savoie, à peu près au moment où la commission Duron, mise en place par le ministère, s'apprête à conclure sur les priorités qu'elle retient pour les investissements ferroviaires des années à venir, en principe des 10 années à venir, affiche l'idée que ce qui était déclaré d'utilité publique n'a plus lieu d'être et qu'il faut tout refaire les études et refaire une enquête publique et réobtenir une déclaration d'utilité publique, ça me paraît proprement aberrant. J'ai toujours conçu les parlementaires comme ayant une mission de faire activer les réalisations attendues par leur territoire. Je n'ai jamais assisté à une initiative qui aboutirait exactement à l'inverse. La gare de Chambéry est la gare internationale pour les liaisons avec l'Italie depuis 1871. On va arriver à un siècle et demi. Et avec cette solution, elle perd cette qualité, puisque les liaisons internationales n'y passent plus. Donc c'est un recul dont je n'arrive pas à concevoir que des élus des territoires chambériens puissent l'assumer. Je n'arrive pas à concevoir qu'ils puissent l'assumer, je me répète.
Alors dans le camp des défenseurs de l'option 1, donc par Chambéry, il y a également le maire d'Annecy, Jean-Luc Rigaud, qui s'est exprimé. Il veut une rapide amélioration des temps de parcours entre sa ville et Paris, entre Annecy et Lyon aussi, également. Je vous propose d'écouter notre action, c'est celle de Michel Dantin, le maire de Chambéry, qui a été évoqué donc par Louis Besson.
Ce qui est clair, c'est que dans l'état des finances, nous n'aurons jamais les deux tubes. Nous n'aurons jamais les deux itinéraires. Quand l'un sera fait, il sera fait définitivement. Et donc, faire aujourd'hui l'axe du Lin-Lépine, c'est assurer à jamais le trafic marchandises dans la traversée de toute l'agglomération. Nous voyons déjà avec tout ce qui vient de par le bord du lac ce qu'est le trafic marchandises qui repart. Ceux qui habitent au bord des voies ferrées, c'est mon cas, voient bien que le trafic marchandises, la longueur des trains de marchandises recommence à être visible. Bon, donc nous devons privilégier les marchandises. Et privilégier les marchandises, c'est la raison qui nous a poussés, avec les parlementaires de Savoie et de Haute-Savoie, à privilégier le tunnel sous Chartreuse en phase 1, ce qui permet également de passer un train de voyageurs et donc de faire venir le train de voyageurs en gare de Chambéry, puis en gare d'Aix-les-Bains et Annecy, sans rebroussement à Chambéry. C'est une solution d'économie. Lorsque j'ai rencontré les conseillers du Premier ministre, ils m'ont dit « Lyon-Turin, ça sera zéro ». Donc c'est en plaidant sur la carte européenne de transport que j'ai réobtenu une écoute. Et ils m'ont dit « Vous avez besoin alors de nous présenter une alternative à ce qui a été bâti jusqu'à présent ». C'est la raison qui nous a conduit, quoi qu'en dise tel ou tel défenseur du Lin-Lépine, à promouvoir cette alternative en revenant finalement au projet d'origine, parce que le projet d'origine, c'était le tunnel sous Chartreuse.
Mme Ledonné-Denis, une réaction par rapport à ces prises de position, puis cette division au niveau des élus savoyards.
En fait, moi, vous me demandez de commenter un truc. Depuis tout à l'heure, il y a un dialogue de sourds qui s'est installé. On est venu parler du Lyon-Turin, du fait qu'il est enterré par le rapport Duron, mais ce n'est pas le premier qui l'avait enterré, on n'a pas entendu.
On ne sait pas encore s'il est enterré, on va attendre la loi.
Et moi, je viens vous dire qu'il y a d'autres solutions pour tout de suite, en effet, aller du côté de l'emploi et surtout de la santé publique. Et vous n'entendez pas. Et a priori,
si c'est 10% de la solution, donc c'est pas la solution.
Non, laissez-moi. C'est pas moi qui apporte cette solution-là, c'est les différents rapports évoqués avant. Et notamment, j'ai là une lettre d'un collectif d'opposants qui ont formulé, lors d'ailleurs des entrevues que vous aviez organisées en avril dernier, des contributions avec une dizaine de propositions. Ça n'a abouti à rien. Et la lettre qu'ils vous ont faite le 20 septembre, dernier, ils n'ont pas eu de réponse. Et deuxième
chose. On a commencé les investissements, vous l'avez rappelé vous-même d'ailleurs, sur la ligne Ambérieu-Modane. Mais la question, ce n'est pas celle-là. Ce qu'on fait l'année prochaine pour sauver 10% du trafic de marchandises et puis les mettre sur les camions. C'est ce qu'on fait pour le reste. C'est ça la vraie question de santé publique.
La vraie question de santé publique, c'est de voir le sujet dans son ensemble et pas simplement un bout du tronçon, mais l'aboutissant. Et il y a une chose importante dont il faut parler parce qu'il a été question tout à l'heure de financement. Je suis désolée. Non, c'est pas technique. C'est important parce que c'est de l'argent public.
Moi, je reviens sur les scénarios. Il y a un scénario où le gouvernement va dire on arrête tout.
Oui, mais c'est.
Il y a un scénario qui peut aussi arriver et que vous pouvez pas nier non plus, c'est que le scénario dise on va faire quand même l'une des deux solutions. Ouais. Et là, va se poser le choix entre l'option 1 et l'option 2, quelle va être la priorité. C'est pas stratégiquement, c'est pas terrible d'arriver au gouvernement en étant divisé.
Je crois qu'on peut arriver à rassembler très largement. Parce que, vous savez, Louis Besson, tout à l'heure, avait des propos assez durs. Moi, je veux lui rappeler que la commission Duron ne s'apprête pas à conclure. Elle a conclu que, de toute façon, le Lyon-Turin n'était pas faisable aujourd'hui. Vous avez raison, madame. C'est-à-dire, désormais, il y a une ministre qui doit trancher et un premier ministre qui doit arbitrer. Si on veut que l'arbitrage permette quand même de relancer le fret ferroviaire, de faire passer les marchandises sur le rail plutôt que sur la route avec des camions. Il faut qu'on change de méthode. Et ce changement de méthode, c'est effectivement de privilégier plutôt l'option fret ferroviaire avec un tunnel sous Chartreuse, je le répète, parce que si on veut tout et qu'on s'aligne sur la position qui est celle défendue par Louis Besson, on voudra avoir raison tout seul. Et souvent, quand on a raison tout seul, c'est peut-être qu'on a tort.
Alors moi, j'ai une question à vous poser, en fait. Je vous entends et vous dites que vous voulez relancer le fret immédiatement. Super, je dis chiche. Mais alors pourquoi vous ne le faites pas tout de suite? Et notamment, la question qui vous est posée par les opposants, laissez-moi terminer, de mettre en application tout de suite les propositions sur la ligne des existantes et de demander, comme ça a été fait par le biais d'un recours au Conseil d'État, que justement les 120 millions d'euros qui auraient dû être affectés au fret et qui n'ont pas été via ce fameux fonds pour le développement d'une politique intermodale, c'est un peu long, des transports dans le massif alpin et qui ont été détournés vers le tunnel du Fréjus pour alimenter...
Mais ça c'est fait. Vous l'avez rappelé vous-même, on a investi 700 millions sur le sujet.
Donc
mais
vous
j'ai,
êtes
déjà pris, j'ai déjà pris position bah publiquement, j'ai même pris la décision. Donc voilà.
De les accompagner pour demander le remboursement de ces 120 millions d'euros.
Lorsque j'étais VP au transport, j'ai expliqué qu'il fallait tout de suite relancer la ligne d'Ambérieu. Donc, mais à mon avis, on parle d'un autre sujet.
Oui,
mais
voilà, c'est la question à poser à Patrick Mignola. Sur l'argument sur est-ce qu'il faut refaire une DUP, c'est-à-dire qu'on va encore retarder tout le projet? Si on repart sur une DUP.
En toute hypothèse, non, ça, c'est pas un argument, le délai. Je pense qu'à court terme, il faut relancer le fret. Et moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur on peut utiliser les lignes existantes. Mais on ne règle pas la totalité du problème. Mmh. Ensuite, on a un tunnel de base international qui sera achevé d'ici 3 à 4 ans au mieux. Mmh. On va donc utiliser les lignes existantes pour aller vers le tunnel de base international. Et ça nous laisse ces 3 à 4 ans pour relancer une DUP. Mais viens, un projet d'utilité publique qui va peser une dizaine de milliards d'euros, dont un tiers financé par l'Europe, ça mérite quand même de ne pas se tromper.
Une dernière question sur le fait que Chambéry soit plus gare internationale et donc perde en matière de dynamisme économique.
Non, mais c'est pas vrai, ça. Il ne faut pas faire croire aux Chambériens qu'il n'y a plus de trains qui passeront par Chambéry pour aller à Turin. C'est-à-dire, quand vous prenez aujourd'hui le Paris-Turin-Milan, vous passez bien par Chambéry. Vous ne passez pas par une ligne nouvelle du Lyon-Turin. Vous passez soit par Culose d'un côté, soit par Saint-André-le-Gaz de l'autre. Donc non, c'est un faux argument. Je comprends qu'on puisse échanger des arguments polémiques en politique, mais celui-là, c'est vraiment un faux argument.
Par contre, il y a une petite chose qui me dérange dans votre discours, et d'ailleurs à tous les deux, c'est que vous dites le tunnel, les travaux ont déjà commencé. C'est faux. Ah non, alors c'est faux, je vais vous dire pourquoi. Ce qui a commencé, les travaux qui ont commencé, ce sont les travaux de reconnaissance et d'études. Ce ne sont absolument pas les travaux définitifs du tunnel de base.
Qui serviront logiquement.
Oui,
serviront,
c'est différent. Et d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes fonds européens. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ça n'a rien à voir.
Ça a commencé à creuser.
Non, ça a commencé à creuser pour des études et de la reconnaissance. Pas du tout, c'est pas du tout les travaux.
Vous avez des études et des reconnaissances à Saint-Martin-la-Porte, mais il y a bien Federica qui creuse au niveau du tunnel de base international.
Je ne vais pas sur les mots parce que ce n'est pas les mêmes budgets.
J'étais avec Manuel Valls.
Regardez, il y a des images.
Voilà.
C'est des travaux d'études et de reconnaissance.
Ah oui, se voit d'ailleurs, c'est des travaux d'études.
Je vous le fais passer, la ministre qui dit clairement que les travaux n'ont pas commencé, texto, sur un avis du CADA.
Je voudrais terminer cette émission avec un aperçu de ce qui se passe en Italie. Et j'ai demandé à Fabrice Séguin, notre spécialiste italien, de nous rejoindre. Fabrice, bonjour.
Alors,
première question sur les accès au tunnel à Suse. Est-ce que les Italiens, eux, sont en avance sur nous?
Alors, on ne va peut-être pas faire les Jeux Olympiques de la lenteur. Mais en fait, les Italiens sont partis avec un gros handicap au départ, en 2005. La pression populaire, les notaves, comme on les appelle là-bas, les opposants, ont organisé des sit-ins, des occupations du chantier qui devait avoir lieu à peu près à mi-Val de Suse, c'est-à-dire à mi-distance entre la sortie du tunnel du Fréjus et puis Turin. Et puis ils ont réussi à cristalliser toute l'attention des médias. Et ça a donné lieu à des affrontements assez violents, il faut le dire, avec les forces de l'ordre. Et l'Europe a obligé l'Italie à revoir complètement le tracé. Donc là, on a perdu pas mal de temps. Récemment, il y a quelques mois, le commissaire spécial du ministère des Transports italien a estimé à peu près à 4 ans, au bas mot, à mon avis, au bas mot, le retard pris par les chantiers côté italien.
Alors, est-ce que les opposants au projet sont-ils aussi mobilisés? Donc, je reviens sur les accès. Pour le moment, donc, ils ont tout réglé ou pas encore?
Non, ils n'ont pas tout réglé. Eux, leur problème, c'était de démarrer un chantier quelque part.
D'accord.
Avec le nouveau tracé déterminé et entériné à partir
eux,
de 2011.
Ils n'ont pas deux options. Ils n'ont qu'une option.
De toute façon, ce n'est pas du tout la même configuration.
C'est possible.
Ouais. Ce n'est pas la même configuration non plus. La distance entre Lyon et l'entrée du tunnel de base à Saint-Jean-de-Maurienne est beaucoup plus importante qu'entre la sortie du tunnel de base côté italien à Souza et puis Turin.
Alors, ça fait une cinquantaine de kilomètres. Sur les opposants au projet, est-ce qu'ils sont toujours mobilisés?
Ils sont toujours mobilisés. mobilisés. Avec des fluctuations, il y a moins de grandes manifestations populaires, mais ils sont mobilisés sur le terrain. Et il est évident qu'à chaque chantier qui part, il y a des notaves qui arrivent pour occuper le terrain sur l'emplacement de la gare de Suse, le pendant italien de la grande gare internationale de Saint-Jean-de-Maurienne, à l'entrée du tunnel. Et bien à la sortie, il faut savoir que les notaves déjà commencent à occuper le terrain. Ils mettent des banderoles sur la maison. On le voit de temps en temps. Ils occupent l'autoroute aussi avec des lancements de cailloux. Et
dernière question du côté de l'Italie. Est-ce qu'on regarde ce qui se passe en France ? Est-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe ? Est-ce que ça les inquiète aujourd'hui, ces interrogations ?
Alors, selon le camp où l'on se trouve, soit ça inquiète, soit ça rassure. Parce que les notaves prennent l'argument, depuis le sommet franco-italien de Lyon en septembre dernier, où la France a été sentie comme un petit peu timorée. Le président Macron était là, il n'a pas été dithyrambique en disant « on va la faire à tout prix ». Il a dit « oui, on va la faire », mais sans trop s'engager. Et ça, les notaves utilisent cet argument pour dire « voyez, même en France, ils en doutent de cette ligne ».
Est-ce que cette mobilisation anti-Lyon-Turin, pour le moment, non, elle est assez calme en France ? Est-ce que vous souhaitez, vous, au fur et à mesure où peut-être le projet va avancer, qu'il y ait une mobilisation, justement, des riverains, des associations, rapidement ?
Mais écoutez...
Est-ce qu'on va assister à un nouveau Notre-Dame-des-Landes, en gros, sur ce Lyon-Turin ? Quel est votre sentiment ?
Mais de toute façon, l'ensemble de ces projets, vous parlez de Notre-Dame-des-Landes, mais on en a d'autres dans la région, la 45, qui posent le problème. Ce sont un ensemble de projets qu'il faut regarder dans leur globalité. C'est à chaque fois des atteintes à nos biens communs que sont l'eau et l'air. Donc c'est un petit peu juste une métaphore. Quand vous vous brûlez un petit peu à un endroit, c'est pas grave, mais si vous avez des brûlures un peu partout, votre pronostic vital est engagé.
Vous craignez ce genre de situation, Patrick Mignola, ou pas ?
Non, moi je crois que sur un sujet qui est d'intérêt général de santé publique, il faut éviter d'être religieux et radicaux.
Je vous remercie tous les deux d'avoir répondu à notre invitation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un dimanche en politique qui sera justement transfrontalier avec vous, Fabrice Leigard. Merci à tous les deux. Bon après-midi.